Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Dans ces pièces chorégraphiques, elle raconte, elle dénonce, elle interroge et surtout elle partage. Des traditions, des émotions, des rires, une réflexion teintée d'humour et d'ironie, avec des mots, des corps, des tissus, des objets, des mouvements, des musiques et une énergie contagieuse. De cette palette multicolore, la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin tire des performances interactives, tout simplement jubilatoires, comme celle que l'on peut applaudir à nouveau jusqu'à demain soir au Palais de Chaillot à Paris, au Théâtre National de la Danse, qui accueille donc à nouveau deux de ses spectacles, dans une petite salle en solo qu'elle a créée il y a près de 30 ans autour d'une caisse en carton et qu'elle a transmis à la danseuse ivoirienne Nadia Begré, et dans une plus grande salle, un spectacle exubérant, un spectacle de troupe avec l'une des premières compagnies mixtes de l'après-apartheid, Moving Into Dance Mopatong. Robin Orlin est donc avec nous et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Robin Orlin.
Bonjour, bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. We wear our will with pride and slap your streets with color. We say bonjour tout cet an. In 1820, c'est le titre complet du spectacle qui triomphe donc dans cette salle Firmin Gémier de Chaillot. Alors on pourrait traduire en français par « Nous portons nos roues avec fierté et giflons vos rues avec de la couleur. Nous avons dit bonjour à Satan en 1820 ». Vos titres sont toujours très longs. C'est une référence au conducteur de rickshaws de Durban au 19e siècle. Et c'est précisé sur l'écran de la salle en zoulou. Les rickshaws sont appelés « iachi », ce qui signifie « chevaux ». Et de fait, les hommes tiraient les rickshaws comme s'ils étaient justement des chevaux. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de leur rendre hommage?
C'était assez simple d'avoir cette idée de leur rendre un hommage, parce que ce sont des gens de l'ombre. Ce sont des gens qui ont lutté et on les a quelque peu oubliés. Ça a commencé en Afrique du Sud au début du 19e siècle. Et en fait, ces gens-là étaient des esclaves. Moi, quand j'ai pris mon premier rickshaw, j'étais très jeune. Et les rickshaws n'étaient plus simplement un service de transport pour la population, c'était une attraction touristique. Et je dois dire que ces gens-là étaient des artistes incroyables. Et on les a, comme je vous l'ai dit, oubliés. Lorsque je les ai vus pour la première fois dans les rues de Durban, j'étais enfant, j'étais en vacances, moi-même originaire de Johannesburg. Et je me souviens avoir demandé à ma mère si c'était des anges. Je n'avais jamais vu autant de couleurs, des gens sauter en l'air comme ça. Je n'avais jamais vu une telle beauté. C'était l'une de mes premières expériences de la danse.
I won't take you for shopping. No swiping. I'm a swiper, swiper, I'm a swiper. I'm a swiper, swiper. Thank you, madam. Thank you for taking a ride with me. Just sit there, relax, and enjoy my ride. I'm a 60-60 other. What? But I won't take you for shopping. No Bershka, no H&M, no Louis Vuitton. No fashion week for you either. But you know where I can take you to? I can take you to my sun that shines in winter. Catching!
Hello, hi, hello, hi. I go by the name of Ntate Tau. My rickshaw only takes very important people today. Oh, yeah, voila, madam, you coming with me. I'm taking very far from Paris. Watch out. We don't forget about the pothole. We're going now, mama. Yes, put on your seatbelt.
Alors, on l'entend. entend, nous, évidemment, à la radio, et on le voit, a fortiori, quand on est dans la salle, l'impression qui se dégage du spectacle Robin Orlins, c'est l'énergie, c'est la vivacité des corps, les sourires, les mouvements, la diversité des couleurs aussi, celle des coiffes ornées de cornes de vache, celle des vêtements, celle des tissus avec lesquels les danseurs évoluent. En fait, de leur souffrance, de leur douleur, ils parviennent à tirer de la joie, de la fête, et surtout une immense liberté, un peu comme les chevaux, finalement. Ils sont bridés, ils sont harnachés, et en même temps, ils expriment une liberté débridée.
I think this is the amazing thing about rickshaws. Specifically the South African rickshaws.
C'est ça qu'il y a d'étonnant avec les rickshaws, particulièrement en Afrique du Sud.
They're not necessarily the happy Africans.
Bon, ce n'est pas les Africains heureux, hein, caricaturaux, non.
They struggle,
mais comme je vous l'ai dit, ce sont des gens qui ont vécu des vicissitudes, des difficultés. Certains n'ont vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Mais il y a entre eux une espèce d'émulation, de compétition. Qui est le plus rapide, le plus beau, le plus bigarré, celui qui a le plus d'entrain. Donc il y avait ces espèces de concours, de compétition que l'on trouvait également. Également en Afrique du Sud avec les danseurs dans les mines. Donc tout ça pour dire que c'est un mécanisme de survie qu'ont développé les Sud-Africains et tout cela a été mis en place à l'époque de l'apartheid.
Mais c'est vrai qu'on sent la concurrence entre eux, ils haranguent leurs clients, ils veulent se les accaparer. Il y a des moments dans le spectacle où on a presque l'impression d'un battle de breakdance, hein, d'une certaine façon, Robin Orlins. En fait, on est à la fois dans le groupe et dans la singularité. Comment est-ce que vous avez joué justement sur les deux tableaux en même temps ? C'est compliqué, ça.
I don't know, maybe it's because that is a kind of a temperament, that it's the way one works.
En fait, c'est comme ça que l'on travaille en Afrique, je dirais. On travaille en groupe, certes, mais en même temps, on reste singulier, on reste un individu. C'est difficile à expliquer. Hein. Mais ce qui était intéressant pour moi dans ce ballet, c'est que les rickshaws, c'est surtout des Zoulous. Hein. Et c'était le cas traditionnellement. Hein. Et les artistes de la compagnie ne sont pas tous des Zoulous. Et néanmoins, quand je leur ai parlé des rickshaws, dont ils ignoraient un petit peu les détails parce que ce sont des jeunes, ce qui m'a d'autant plus conforté dans l'idée qu'il fallait que je fasse ce ballet, eh bien, les jeunes artistes se sont appropriés ces rickshaws en comprenant quelle a été leur expérience. Les danseurs Zoulous de la compagnie, eux, savaient davantage de quoi je parlais immédiatement. Ils connaissaient l'histoire. Et ils connaissaient la sensation qui est celle de l'expérience des rickshaws.
Mais alors, dans quelle mesure, Robin Orlins, les danses traditionnelles zoulous ont irrigué les mouvements des danseurs ?
I never call myself a pure choreographer.
En réalité, moi, je ne suis pas chorégraphe.
Mais
pas vraiment chorégraphe. Je n'aime pas tellement imposer quoi que ce soit aux danseurs. J'aime bien d'abord les voir bouger. Je regarde leur corps. Et puis ensuite, j'essaye de trouver un moyen d'interpréter les choses qui doivent être interprétées sur le plan artistique. Et ainsi, j'implique les danseurs et les danseuses. Ils s'attachent davantage, ils s'approprient davantage le sujet. Et ensuite, l'aboutissement de mon travail se fait comme cela.
Alors, la libération qu'on évoquait il y a un instant, Robin Orlins, elle passe pour ses chevaux, si j'ose dire, par une cérémonie, un rituel que chacun des danseurs va effectuer sous le regard des autres, sur le plateau du Théâtre National de Chaillot, en osmose avec l'esprit des ancêtres et sous l'œil de la caméra d'un téléphone portable qui projette ses images sur l'écran géant en fond de scène. Il y a également une caméra accrochée dans les cintres, hein, qui filme les danseurs en surplomb. Tout est réalisé en direct et chaque danseur pose son masque sur le tissu qui lui est propre et se libère ainsi. Et là, on reconnaît des mouvements de hip-hop. On est donc dans ce mélange entre tradition et modernité. Mélange qu'on retrouve aussi d'ailleurs au niveau de la musique. Il y a deux musiciennes extraordinaires qui sont multi-instrumentistes, qui jouent en live, qui chantent aussi. Il y en a une qui a un timbre de voix absolument incroyable et qui électrise vraiment les danseurs et le public. Parce que le public, il est vraiment partie prenante du spectacle Robin Orlins. Il ne fait pas que regarder, il n'est pas seulement pris à témoin, il participe. En fait, cette cérémonie libératrice, c'est une forme de communion.
Oh, totally. That's how it happens in Africa.
Mais oui, mais c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Vous l'avez très bien décrit.
That section's a very important section.
Oui, ce que vous avez décrit, c'est un passage très important. En réalité, c'est une espèce de battle dans la forme, mais les artistes essayent d'entrer en communication avec leurs ancêtres pour demander à quel niveau ils peuvent aller. Aujourd'hui, évidemment, les rickshaws ne sont plus vraiment utilisés et ils recherchent une bénédiction. Alors, je ne joue pas avec la tradition africaine, mais c'est quelque chose que les danseurs devaient faire. Donc on a choisi cette voie ensemble avec la compagnie. Et moi, il m'a paru quelque chose de très, très intéressant. Au début, j'aurais donné beaucoup de liberté dans la chorégraphie. Puis, petit à petit, j'ai dû épurer les choses. Cette compagnie avec qui je travaille, c'est absolument formidable. C'est vraiment un groupe de danseurs et de danseuses d'Afrique. Ce sont des gens qui maîtrisent toutes les formes de danse, particulièrement les danses africaines, particulièrement les danses sud-africaines et la danse contemporaine. Et ils ont un vocabulaire immense, immensément étendu.
Et
chacun a un vocabulaire différent. Moi, je voulais exploiter tout ce potentiel. Et ils sont inspirés par Pansula, qui est une danse de rue sud-africaine, et il y a d'autres danses qui se déclinent ainsi et qui voient le jour. C'est des danses assez inhabituelles. Ce n'est qu'aujourd'hui que le monde commence à découvrir toutes ces danses.
Et non seulement on a envie de les découvrir, mais on a aussi envie d'y participer. On a parfois du mal à ne pas se lever et à rejoindre les danseurs sur scène. En plus, ils incitent vraiment le public à faire des mouvements, à bouger également avec eux. Il faut dire qu'avec vous, Robin Orlin, le quatrième mur, comme on dit au théâtre, n'existe pas. C'est aussi d'ailleurs le cas dans l'autre spectacle que vous présentez toujours au théâtre de Chaillot, dans une salle beaucoup plus petite, en sous-sol. Donc c'est un solo, cette fois, exécuté par la danseuse ivoirienne Nadia Beugré, qui, en plein spectacle, demande même au spectateur un massage.
Je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là.
Voilà, Nadia Beugré qui demande un massage. Alors évidemment, on ne sait pas trop, nous, dans le public, comment se positionner par rapport à cette demande. Et ce solo qui se déroule à côté, dedans, puis avec une caisse en carton, un peu comme celle qui peut servir de demeure à un sans-abri. C'est de cette boîte en carton-là que vous êtes parti pour imaginer ce solo, Robin Orlin.
Ok. That's a very interesting story.
Ah, c'est une histoire très intéressante.
When I finished my master's in America, when I was very young,
mon diplôme de master's aux États-Unis, c'était pas hier.
I went to live in New York.
Je suis parti de Chicago pour m'installer à New York.
I noticed et là, how difficult it was
j'ai remarqué à quel point
to find a place to live.
Il était difficile de trouver un logement à New York. Je l'ignorais. À l'époque, on était au début des années 90, il y avait beaucoup de sans-abri dans les rues de New York, qui vivaient effectivement dans des grands cartons, le genre de carton que l'on utilise pour emballer des réfrigérateurs. Je me suis lié d'amitié avec certains sans-abri dans le quartier où je vivais. Et il y a un homme dont la boîte en carton avait été volée. Et nous sommes partis à la recherche d'un nouveau carton. Et j'ai pu comprendre la difficulté qu'il y avait à trouver ce carton, et il a fallu amener ce carton de l'autre bout de Manhattan jusque là où il vivait. Et moi, en même temps, je me lançais dans le travail et je n'avais pas de lieu de travail, moi. Donc je me suis dit, moi aussi, je vais me retrouver à travailler dans un carton. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler pour cette pièce.
Et
ça a commencé effectivement par une boîte en carton, un solo à New York.
Ouais, et dans le spectacle, cette boîte en carton va devenir tout un monde, une sorte de boîte à surprise. Alors on ne va pas trop donner de détails, Robin Orlin, parce que l'étonnement, l'inattention, inattendu, l'amusement qui en découle fait partie du plaisir du spectacle et du spectateur. Disons juste qu'il y a beaucoup d'objets sur le plateau et que Nadia Beugret s'en empare avec beaucoup de fluidité et d'ingéniosité. Ces différents objets pour la danseuse, ce sont des accessoires ou ce sont des partenaires ?
I think both.
Ah ben les deux, mon commandant. Je dirais que lorsqu'il faut tout porter, tout ce que l'on possède à la main, mais moi d'ailleurs, quel que soit le balai que je travaille, je travaille avec des objets qui sont à la fois des objets et des partenaires, même s'il s'agit d'une pièce avec plusieurs artistes. En tout cas, moi j'aime bien travailler avec des accessoires, parce qu'on ne peut pas toujours créer des images rien qu'avec le corps. Et moi, je m'intéresse à l'interaction entre ces objets et le corps.
Et les tissus, Robin Dorlin, est-ce que ce sont des objets singuliers ? Est-ce que vous leur octroyez des pouvoirs particuliers ?
Well, that's really a long story.
Ah, on pourrait en parler pendant bien longtemps.
People that are Jewish will understand. My father was in schmatters. My
Donc,
father was in clothing,
and my family. Portait des schmatters. Les Israélites comprendront. Et donc. Les gens qui viennent d'Europe de l'Est en Afrique du Sud sont très attachés à la qualité du tissu. Et quand j'étais toute jeune, j'ai compris quelle était l'importance du tissu. Mon père était grossiste et il y avait des Sud-Africains qui venaient lui acheter du tissu à Johannesburg. Et mon père m'expliquait, eh bien, tu sais, il faut sentir le pour, il faut sentir l'état. La qualité du tissu. Et moi, je suis étonné de voir ce que j'ai appris des Africains qui venaient acheter du tissu à mon père.
Alors, il y a les tissus, il y a les objets, et puis il y a évidemment le corps, en l'occurrence le corps de Nadia Beugret, qui utilise toutes les parties de son corps, et en particulier ses cheveux, qui sont souvent et de façon extrêmement différente au cœur de la chorégraphie. Pourquoi est-ce que vous avez voulu donner dans ce spectacle-là une telle importance aux cheveux ?
To the hair. Oh, the history of the hair for people in Africa, for women in Africa
les cheveux des femmes africaines,
so
c'est d'une importance fondamentale.
Is Zulu and I've grown up
ma fille
with her
est
and,
Zulu,
all these years, 20 years now, and,
elle a 20 ans
and
maintenant, et ce n'est que par elle que j'ai compris l'importance de l'identité des Sud-Africaines par les cheveux. Et c'est en fait une évolution historique. Il y a beaucoup d'esclaves en Amérique du Nord qui se faisaient des tresses qui étaient en fait une espèce de cartographie de leur destination. Vous voyez, il y a dans les cheveux une cartographie, une trace de l'histoire. C'est fondamental en Afrique du Sud. Et Nadia Beugret, je crois, va faire un solo rien que sur les cheveux. Bon, je ne vais pas parler en son nom, mais je crois qu'il va y avoir quelque chose comme ça. Tout ça pour vous dire l'importance des cheveux. Et quand on a improvisé dans le cadre de la préparation du spectacle, elle a commencé à travailler avec ses cheveux et les différents accessoires. Et moi, je voyais où elle voulait en venir. Et on a essayé de tout mettre ensemble.
Nadia Beugret qui joue et danse en même temps, elle parle aussi. Hein. Les mots ne sont pas tout le temps là, mais ils sont très, très choisis, très ciselés, et souvent ils véhiculent des messages politiques très forts, en particulier à la toute fin du spectacle, et on sent que ces mots, ils sont ancrés aussi dans l'actualité, puisqu'elle évoque la situation politique ivoirienne, l'Ukraine, elle parle de la place des femmes, de la lutte contre l'homophobie. On est vraiment dans un spectacle total, quoi. Il y a la musique, il y a la danse, le jeu des corps, les mots, les objets, l'humour, l'ironie, les ombres et la lumière. En fait, vous faites pas seulement de la danse, vous faites pas seulement du théâtre, vous faites un spectacle total, Robin Dorlin.
Yeah, that's how I make work.
Oui, c'est comme ça que je travaille, oui.
Je m'excuse, mais c'est comme ça pour moi.
Mais ça veut dire que les corps ne suffisent pas à exprimer des choses, qu'il y a besoin aussi d'utiliser les mots.
Oui, je dois utiliser les mots du film, le théâtre, tout.
Ah, oh, ah, c'est beau.
Spectacle, hein, et c'est beau, répète effectivement Nadia Beugré dans le spectacle en tapant sur cette fameuse caisse en carton. Comment définiriez-vous ce qui est beau, Robin Orlin? Pour vous, c'est quoi la beauté?
Wow. I mean, three, four years ago, I made a piece with Moving into Dance about beauty.
Il y a 3-4 ans, j'ai fait un ballet à propos de la beauté.
It was very interesting what my version of beauty was et
c'était intéressant de voir quelle était ma définition de la beauté par rapport à celle des autres. Mais pour moi, la beauté, c'est l'humanité, mais aussi l'ironie, c'est l'altérité. La beauté, à mes yeux, c'est quelque chose qui se trouve sous la surface. Ce n'est pas quelque chose à l'extérieur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur pour sortir.
Et pour faire ressentir cette beauté à l'intérieur, il faut aussi la montrer sur scène et la partager avec le public, parce que le partage est vraiment au cœur de votre travail aussi, Robin Orlin.
Oh, completely. To share this possibility
is the possibility. C'est l'essence de tout.
Merci beaucoup, Robin Orlin, d'être passé nous voir sur RFI aujourd'hui. Je rappelle que vos deux spectacles sont encore à l'affiche du Théâtre National de Chaillot ce soir et demain dans le cadre du Festival d'automne. Merci beaucoup.
Merci.
Je te vois enfin un red car dans VMDN sur RFI.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Et avec nous cette semaine, Carmen Lutzmann et Marjorie Bertin à Paris et notre correspondante à Londres, Sidonie Gaucher. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Bonjour Jean-François.
Allez, une petite charade pour commencer. Mon premier est sourd. Mon second symbolise le potassium. Mon troisième n'est pas glorieux. Mon quatrième est toujours premier aux courses. Et mon touet... C'est compliqué.
Bon,
je vais vous aider. Bon, on va le faire progressivement. Mon premier est sourd.
Beethoven ?
Mais non, sourd comme un. Comme un pot, voilà. Mon second symbolise le potassium. Vous avez fait de la chimie.
J'étais très nul en chimie.
Le symbole du potassium. Non, car.
Car.
Voilà. Mon troisième n'est pas glorieux.
La honte. Pocahontas.
Voilà. Bravo. Voilà. Le premier au cours, hélas, on est d'accord. Voilà. Donc effectivement, Pocahontas, vous la connaissez évidemment cette héroïne.
Mais bien sûr, je la connais Marjorie. Comme beaucoup de monde. Elle m'a beaucoup fait rêver quand j'étais petite. Hein. C'est une jeune fille mythique, espiègle, intrépide, qui tendit la main aux colons d'Amérique au XVIIe siècle. Patrick Prugne s'empare de ses pinceaux pour lui dédier sa nouvelle bande dessinée, une épopée captivante, empreinte de mélancolie et de réalisme historique.
Vous, Carmen, vous avez découvert une ménagerie pas comme les autres.
Ben surtout une féministe pour les uns et une écologiste pour les autres. Rosa Bonheur défend la cause animale dans l'art comme aucune autre artiste. Et le musée d'Orsay le lui rend bien avec une rétrospective pour le bicentenaire de sa naissance où l'animal est roi.
Mais pour commencer, on part à Londres avec vous, Sidonie. On part visiter une exposition sur le thème de la mode africaine, Africa Fashion. Elle couvre plus de 40 designers issus de 22 pays. C'est même la plus grande exposition du genre sur le sujet. Hein. J'ai dit la plus grande exposition du genre, car vous allez voir, elle n'est pas vraiment comme les autres non plus.
When lost, did go to Bacchanalia. He seems to have seen you there.
Avec cette exposition, Londres ne dément pas sa réputation d'avant-garde et d'éclectisme artistique. C'est même un choix revendiqué par le Victoria and Albert Museum, le V&A pour les intimes, qui est d'ailleurs situé dans le quartier français de Londres. Alors qu'est-ce qu'elle a d'original cette exposition? Je vais vous le dire, mais d'abord je vous pose une question. Si je vous dis mode africaine, vous pensez à quoi?
Eh ben je sais pas, je pense à des boubous colorés évidemment, à du wax, au jujuat ou aux robes crayon pour parler de styles différents.
Oui exactement, on pense souvent à des tissus colorés, des formes de vêtements originales voire extravagantes. On a peut-être aussi un peu l'idée de quelque chose d'artisanal, folklorique même. C'est exactement ce que cette exposition n'est pas. On y casse totalement les a priori sur l'Afrique et pour commencer, cette exposition n'est pas commandée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un fil conducteur le long duquel des designers seraient choisis s'ils correspondent à l'idée qu'on en a. Et c'est bien là l'originalité de la démarche pour le V&A puisque ce musée a longtemps été considéré comme ethnocentré et là au contraire c'est afrocentré. L'exposition est construite autour des designers du continent africain. Christine Cheshinska, la curatrice, nous explique pourquoi c'est important que les artistes africains racontent eux-mêmes leur propre histoire au lieu de répondre à une attente.
Les inspirations africaines sont absolument partout. On ne s'en aperçoit pas toujours et ce n'est d'ailleurs pas toujours bien fait ni très respectueux. Ce que j'aimerais voir à l'avenir de la part des designers, c'est d'apprécier la créativité africaine, mais de le faire avec respect. Donc je m'intéresse beaucoup plus à l'appréciation qu'à l'appropriation.
Donc c'est la question de l'appropriation culturelle et de comprendre l'origine de nos inspirations. Alors, est-ce que c'est le vêtement, justement, Sidonie, qui raconte l'histoire de celui qu'il porte?
Il y a beaucoup de ça, oui. Est-ce que vous avez ça, vous, un attachement émotionnel à un vêtement, que ce soit le vêtement que vous portiez lors de votre mariage ou un vieux pyjama dans lequel on est bien et dont on ne peut pas se séparer?
Alors moi non, mais Baptiste-Antoine, qui est de l'autre côté de la vitre, m'a dit qu'il portait toujours un string léopard avec des franges, mais je ne suis pas allé vérifier. Hein.
Eh bien écoutez, cet attachement, Christine Cheshinska en parle d'une manière également politique.
Si vous regardez dans votre armoire, il y a des choses que vous aimez particulièrement, des vêtements qui vous ont été offerts ou que vous avez hérités d'un parent. Donc cette idée que la mode est un catalyseur pour raconter des histoires, ça va bien au-delà d'un bout de tissu commémoratif. C'est beaucoup plus subtil que ça et ça nous connecte au personnel. Ça nous fait penser que notre histoire personnelle est souvent absente de l'histoire qui est reçue ou racontée. C'est une cartographie d'histoire. Et je pense que les artistes de l'exposition ont vraiment bien représenté la narrative fashion, c'est-à-dire le pouvoir de storytelling de la mode.
Donc une sorte de storytelling décolonisé, on pourrait dire ça ?
Oui, exactement. Pour la curatrice, il s'agit de décoloniser le regard et à travers des photos, des créations traditionnelles ou futuristes, c'est exactement de cela qu'il est question, parler du futur de la création africaine contemporaine, réimaginée à partir d'elle-même.
Quand je pense à la décolonisation, je pense au pouvoir cicatrisant de la mode, à son pouvoir de réparation. Dans le même ordre d'idées, je me demande comment ce serait de vivre dans une société où on pourrait être profondément soi-même et de pouvoir l'exprimer avec ses vêtements.
Bon, et vous, Sidonie, c'était quoi votre pièce préférée dans cette exposition ?
Ah, c'est difficile à dire. Dans la partie concernant l'indépendance, ce que j'ai préféré, je crois, c'est des photos prises dans des studios d'Algérie, du Cameroun ou du Mali. La jeunesse y allait pour ça, en fait, pour immortaliser le sentiment de liberté qu'allait apporter l'indépendance. Et donc, ils s'habillaient pour l'occasion. Ça, c'était très émouvant. Au deuxième étage, en ce qui concerne toute la scène contemporaine, c'est trop difficile de choisir, mais je dirais toutes les créations qui jouent sur la performance de genre. Des couleurs, des robes, des paillettes pour un homme, ce qu'on pourrait qualifier de drague, en fait, mais qui soulignent peut-être un horizon d'attente pour des jeunes en ce qui concerne les normes sociales. Mais plus globalement, j'ai été frappée par la matière culturelle, littéralement. Les différentes couches, que ce soit de tissu, d'histoire ou de niveau d'interprétation que cette exposition donne à voir.
Et pour la petite histoire, Sidonie, je crois que vous avez rencontré quelqu'un lors de cette visite.
Alors, j'ai presque rencontré quelqu'un. J'ai seulement croisé de loin le roi Charles, rien que
ah
ça.
Oui, quand même.
Et la reine consort, oui, oui. Et la reine consort, Camilla, qui étaient eux aussi en visite au V&A. Alors, ils font beaucoup de choses quand même en ce moment à Buckingham pour resserrer les liens avec les pays du Commonwealth, qui a récemment accueilli deux nouveaux pays, le Gabon et le Togo. C'est rafraîchissant en tout cas de voir à quel point cette exposition fait bouger les lignes. Alors diplomatique, je ne sais pas, mais en tout cas artistique de l'Afrique.
Ouais, une exposition intitulée donc Africa Fashion et à découvrir au V&A de Londres jusqu'au 16 avril 2023. Merci Sidonie. C'est le bœuf sur le toit de Darius Milhaud qui donne le ton de notre prochaine escapade. Et cette fois, c'est avec vous, Carmen. Nous allons partir sur les traces d'une artiste française du 19e siècle, devenue aujourd'hui une icône pour les féministes et pour la communauté LGBT. Elle fut la première à avoir donné ses lettres de noblesse à la peinture animalière avec un faible pour les bovins. Elle s'appelle Rosa Bonheur. Et pour célébrer les 200 ans de sa naissance à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le musée d'Orsay de Paris expose 200 de ses œuvres, des peintures, des arts graphiques, des sculptures, des photographies, dans une grande rétrospective qui rend donc hommage à cette femme artiste et visionnaire. Avant d'entrer dans l'exposition avec vous, Carmen, peut-on commencer par dire qui était tout simplement Rosa Bonheur ?
C'est une femme qui a bousculé les genres de tout genre, Jean-François. Donc, dans un 19e siècle encore assez corseté, qui ne fait pas de cadeaux aux femmes, où elles sont au mieux destinées à se consacrer au règne de la cuisine et des enfants, Rosa Bonheur côtoie Napoléon III et Buffalo Bill. Elle refuse le mariage et vit avec une femme. Elle fume des cigarettes et des havanes. Elle porte des cheveux courts et des pantalons, sur autorisation de la préfecture de police, bien sûr, contre un certificat médical à renouveler tous les 6 mois, car le port du pantalon est strictement interdit à la gente féminine de l'époque. Bref, cette femme émancipée avant l'heure fait fi des conventions et se bat dès son plus jeune âge pour son indépendance, confirme Leila Jarbouet, conservatrice en chef du musée d'Orsay et l'une des 3 commissaires de l'exposition consacrée à Rosa Bonheur.
Elle a appris très tôt à se battre parce qu'elle a perdu sa mère à l'âge de 11 ans, enterrée dans une fosse commune. Donc Rosa Bonheur a fait l'expérience de la misère très tôt. Donc elle s'est jurée qu'elle vengerait sa mère en ne reproduisant pas en fait la vie de sa mère qui s'est sacrifiée pour élever ses enfants, qui a été en quelque sorte abandonnée par son mari parce que le père de Rosa Bonheur était un peintre saint-simonien, enfin qui allait vivre dans une sorte de couvent. Donc à 11 ans, elle se retrouve l'aînée d'une fratrie de 4 enfants avec un père qui n'avait pas vraiment le sens du concret. C'est Rosa Bonheur qui très vite a fait vivre sa famille par son talent de peintre. Et avant même d'avoir 40 ans, grâce à l'argent de son travail, elle peut s'acheter un domaine, ce qui était très rare en fait. Une femme à l'époque ne pouvait pas, sans homme, sans tutelle masculine, devenir propriétaire. Donc là, vraiment, c'est le début de la gloire pour Rosa Bonheur.
Et cette gloire acquise tellement jeune, à moins de 20 ans, elle expose déjà au Salon de Paris, eh bien, elle va devenir la première artiste femme décorée de la Légion d'honneur. Elle va recevoir cette récompense alors qu'elle a un peu plus de 40 ans. Et cette gloire, Carmen, elle la doit donc aux animaux.
Et pas les moindres, Jean-François. Des animaux les plus majestueux, des lions, des cerfs et des bisons, mais aussi des aigles, des gazelles, des taureaux et même des singes, font partie de la ménagerie personnelle de Rosa Bonheur, un enclos dans son domaine près de Fontainebleau qui compte parmi jusqu'aux 200 bêtes, des plus familiers aux plus exotiques.
Rosa Bonheur vivait entourée d'animaux, donc elle a toujours vécu avec des chevaux, des chiens, des moutons, mais aussi des animaux sauvages. Elle a hébergé des lions dans son château vers la forêt de Fontainebleau. À l'époque, quand des animaux étaient malades ou ne pouvaient plus travailler dans les cirques ou les ménageries, ben, on pouvait les offrir à des artistes comme Rosa Bonheur, qui était très célèbre pour ses peintures animalières. Et elle s'imprégnait de leur mode de vie, les apprivoisait, elle dessinait au milieu d'eux. Et du coup, elle a réussi vraiment à transmettre leur vitalité propre, leur spécificité, et à donner vraiment une impression de vie à travers ses œuvres.
J'entends bien, Carmen, ce rugissement de lion sorti de la plume de Camille Saint-Saëns pour son Carnaval des animaux. C'est à peu près à la même époque, hein, d'ailleurs, que les fauves sortent du pinceau de Rosa Bonheur. Alors, sous quel trait, Carmen, quelle est la particularité de sa peinture?
Ben, c'est un style hyper réaliste, plus vrai que nature, d'une exigence et d'une précision folle. Pour se perfectionner, la jeune Rosa Bonheur va jusqu'à l'abattoir, les souliers et les jupes dans le sang, pour étudier donc les carcasses des bêtes. Et pour sa plus grande toile, le marché aux chevaux, près de 2,5 mètres de haut et 5 mètres de long, elle se rend 2 fois par semaine au marché pendant 1 an et demi pour réaliser des centaines d'études.
Ah oui, impressionnant. Alors cette peintre animalière fait aussi un triomphe avec ses vaches et ses bœufs horriblement ressemblants, comme le disait à l'époque le peintre Paul Cézanne.
Elle dit même avoir, je cite, « pour les étables un goût plus irrésistible que jamais courtisan pour les antichambres royales ou impériales ». Mais ce qui est le plus sidérant dans son art, Jean-François, c'est le regard. Ces bêtes dans l'exposition vous transpercent du regard.
Pour Rosa Bonheur, les animaux avaient une âme, et cette âme passait par les yeux. Et donc ces cerfs dans la forêt transcrivent une atmosphère mystérieuse, poétique, presque irréelle, et montrent que Rosa Bonheur est une réaliste qui réussit à faire surgir la magie du quotidien le plus simple. Et ça, c'est assez merveilleux dans son art.
Et c'est ce mélange exquis entre le quotidien et le merveilleux qui fait la force de cette peintre, qui préfère les modèles à quatre pattes aux simples humains, qui parvient à saisir la singularité et la beauté sauvage des animaux à travers des portraits justes, son sentimentalisme presque scientifique. Mais c'est aussi une femme engagée, Jean-François, souligne à la commissaire Leila Gerbouet.
Elle a fait partie quand même des premiers membres de la Société protectrice des animaux et elle a illustré des livres qui dénoncent l'exploitation des animaux. Elle a dirigé aussi une école de dessin pour filles.
Une école impériale gratuite pour demoiselles où elle dit souvent à ses élèves « Je ferai de vous des Léonard de Vinci en jupon ». Donc c'est une femme aux multiples facettes, une artiste follement libre, au regard aussi fier que celui de ses lions qui dévoile cette exposition où l'animal est roi. Et le public subjugué face à tant d'humanité derrière les poils et les plumes.
Rosa Bonheur, une artiste hors pair et parfaitement dans l'air du temps à découvrir ou à redécouvrir dans cette grande rétrospective. C'est au Musée d'Orsay à Paris jusqu'au 15 janvier prochain. Merci Carmen. Cheveux longs et bruns, tempérament rebelle, un regard profond. Alors, c'est pas vous, Marjorie, c'est Pocahontas, quoique. Patrick Prugne dédie sa nouvelle bande dessinée éponyme à la plus célèbre des princesses indiennes, dont le vrai prénom, me disiez-vous il y a un instant, était Matoaka, ce qui signifie fleur entre deux ruisseaux.
Oui, magnifique. C'est très joli, parce qu'elle est née vers 1595 entre deux rivières. Alors peut-être c'est ce qui l'a prédestinée à vouloir être un pont entre deux mondes aussi, celui des Powhatan, sa tribu, et celui des Anglais qui venaient coloniser ce qui deviendrait la Virginie en Amérique. Alors, est-ce que vous vous souvenez du dessin animé de Walt Disney, Pocahontas ?
Eh bien, je ne l'ai pas vu.
Non, moi non plus. Hein.
Ah, pas de chance.
Bon, alors moi je l'ai vu, je
oui,
l'ai adoré.
Chance, oui.
Et en fait, la bande dessinée de Patrick Prugne, elle plante le même décor. Ça se passe au bord des côtes de Virginie. Il y a la forêt qui est verdoyante. Elle est peuplée par les Indiens qui vivent en harmonie jusqu'à l'arrivée brutale des colons anglais. Mais Patrick Prugne, lui, s'est vraiment attaché aussi à essayer de restituer la vérité historique. L'action démarre en 1621, après la mort de Pocahontas et son départ. Car en réalité, je ne sais pas si vous le saviez, mais elle est partie d'Amérique.
Alors, pour retrouver le sympathique capitaine John Smith, c'est pour ça qu'elle est partie, capitaine dont elle était amoureuse, c'est ça ?
Mais je ne peux pas tout vous révéler sur ce qui se passe ensuite arrivé en Angleterre avec John Smith, mais typiquement, ce capitaine, au début de la bande dessinée, quand il arrive en 1607, il n'a rien à voir avec le héros de Disney, très, très fier, très conquérant. Là, il est condamné à être pendu pour mutinerie. Les Indiens les attaquent, et à ce moment-là, Prugne, ce qu'il fait d'extraordinaire, c'est qu'il va nous immerger dans cette bataille avec un réalisme qui est vraiment saisissant. Chaque arme est très précise, les vêtements, les traits des personnages sont tendus, emplis de crainte ou de courage, et c'est justement pour sa bravoure que John Smith va être gracié.
Bon, c'est assez différent de l'image qu'on connaît.
Oui, et Patrick Prugne me racontait qu'il a voulu sortir du cliché de l'indienne éperdument amoureuse du blanc aussi, lui il l'aperçoit tout à fait autrement.
Pocahontas est un dommage collatéral, on va dire. Elle était là, elle était bien là, et les habitants de Jamestown en ont gardé quand même un souvenir très volontaire, et ce qui en reste, c'est qu'elle a quand même essayé de rapprocher les deux peuples. C'est à peu près ce que j'ai voulu, ce que j'ai voulu rendre dans cet album.
Alors du coup, il faut dire aussi que ça, c'est quand même beaucoup plus cohérent. Et il faut préciser que les Indiens, Patrick Prugne leur a déjà consacré 6 albums. Alors il m'a aussi raconté d'où vient cette passion et pourquoi être au plus près de la vérité historique, ça lui importe autant.
J'ai essayé de coller au plus proche de l'histoire. Bien sûr, j'ai fait des raccourcis, j'ai joué un petit peu avec la longueur du temps, l'étirement du temps. Mais je pense que je suis resté assez proche de la réalité sur bien des domaines. Et j'essaie de rendre à Pocahontas ce qui lui appartient, c'est-à-dire le rôle qu'elle a joué dans ce rapprochement entre les deux peuples.
Et comment il se manifeste, ce rapprochement, Marjorie ?
Mais après la première bataille, les Powhatan qui sentent le danger veulent renvoyer les colons à la mer. Pocahontas, là, elle va négocier pour qu'ils restent l'hiver entier, il faut dire qu'elle est un petit peu amoureuse aussi, mais les conditions de vie sont très dures. Patrick Prugne, il va dessiner à ce moment-là la nature hostile. On voit la neige, les flocons, nous faire sentir le froid, mais aussi et surtout la faim des colons, une faim que Pocahontas va contrer en leur apportant des vivres, ce qui m'a rappelé une fête que je n'aime pas trop, personnellement. Personnellement, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?
Je sais pas, Thanksgiving ?
Absolument, oui. Merci pour les cadeaux. Hein. Tous les ans, les Américains remercient les Amérindiens pour avoir aidé les colons du Nouveau Monde affamés en leur offrant de la nourriture. Le capitaine John Smith et son équipage, eux, ce sont des citadins. Évidemment, ils ne sont pas du tout aptes à vivre comme les Amérindiens dans la nature à laquelle ils ne connaissent pas grand-chose.
De toute façon, c'est évident qu'un hiver à Jamestown pour quelques colons, un hiver très très rigoureux, je pense que les Indiens, les Amérindiens ou les Powhatan ont sauvé les colons. Bien que, faut quand même savoir que sur les 100 et quelques arrivants, 40 sont sortis intacts de l'hiver. Donc c'est vrai que c'était quand même une période très très rude. Les Amérindiens étant beaucoup plus acclimatés à leur région, ont souvent sauvé la mise aux Anglais.
D'ailleurs, ce qui m'a frappé dans la bande dessinée aussi, c'est que Patrick Prugne, alors je ne sais pas si c'est inconscient ou pas, je n'ai pas pensé à lui poser la question, jamais il montre l'intérieur des maisons des colons, contrairement à celle des Powhatan. Donc alors là, Covid oblige, hein, l'artiste a fait un voyage immobile, dans les films notamment, à l'instar du Nouveau Monde de Terrence Malick, et dans les films bien sûr, pour être au plus près de ce qu'il sentait, ce qu'il voulait transcrire de cette réalité historique.
J'adore faire des recherches, et j'espère que j'y suis un petit peu parvenu, notamment aussi pour la ville de Wokomoko, un petit peu difficile à dire, la ville des Powhatan, des Indiens Powhatan. J'avais déjà une idée de la construction de leur maison, c'est-à-dire en écorce, en bois, en écorce de bouleau. Voilà, il a fallu mettre tout ça en place, et en fait j'adore ça, donc ça m'a pas vraiment posé de problème. Ça m'a pris beaucoup de temps par contre.
Alors, ce qu'il est important de souligner aussi, c'est la force du dessin. Il y a par exemple cette scène où on voit un colon affamé essayer d'attraper un rat pour le dévorer. Dans une autre, on voit des vaches et des chèvres qui vont arriver par bateau importé d'Angleterre. Et tout ça est nourri, prodigieusement nourri, par un travail de recherche colossal, je le disais. Il y a même un glossaire et des cartes à la fin du livre.
Oui.
Mais ce n'est pas prétentieux non plus, c'est très accessible. Il y a une maîtrise cinématographique, des plans rapprochés aussi, qui fait un très bel effet. Et puis aussi une utilisation subtile de l'aquarelle.
Tout est parti quand j'étais gamin des dessins animés de Disney et j'étais complètement scotché devant tant d'harmonie de couleurs, devant tant de beauté, devant tant d'ambiance. Hein. Évidemment, ça s'est imposé à moi de façon évidente. Alors bon, c'était du travail. Je faisais pas mal d'illustrations à l'aquarelle, mais avant de se lancer dans un album de bande dessinée entier, ça a été compliqué et puis avec le temps, j'ai réussi à obtenir quelque chose dont je suis assez satisfait, bien que avec l'aquarelle, on n'a jamais terminé, on n'a jamais fait le tour.
Alors, je ne sais pas si vous pratiquez un peu la peinture tous les trois.
Malheureusement, non.
Mais
j'ai
moi,
essayé, la
guerre, musique,
il y a très longtemps. J'ai vite abandonné.
Mais l'aquarelle, en fait, c'est formidable. Moi, j'en ai fait un petit peu. C'est que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça permet aussi d'accentuer en diluant dans l'eau, d'estomper les couleurs et là, de créer de la brume. Donc, c'est une atmosphère, si vous voulez, qui sied bien à cette princesse aussi insaisissable que le vent, nous raconte son frère dans la bande dessinée. Je vous le disais, Pocahontas est morte lorsque la action commence. Donc grâce à l'aquarelle, on va vraiment sentir qu'on pénètre dans un récit qui est palpitant, mais qui est aussi comme enveloppé d'une brume mélancolique et nostalgique.
Pocahontas est morte, mais sa légende demeure vivante. Pocahontas de Patrick Prugne aux éditions Daniel Maguen. Merci Marjorie, merci aussi à Carmen et Sidonie. Dans un instant, le journal sur RFI à lundi pour du théâtre, la pièce Politicien actuellement à l'affiche des Déchargeurs à Paris, et vous m'en direz des nouvelles.